Bonjour.
Vous dites enfin ?
Effectivement. Oui, je dis enfin, oui. c'était le moment. Oui.
Vous êtes historien, vous êtes à la tête d'un label qui produit des disques vinyles de reggae avec des musiciens jamaïcains. C'est un vrai événement, cette inscription au patrimoine mondial pour les amoureux du reggae.
Alors, j'ai l'impression que c'est plus un événement pour ceux pour qui le reggae prend une place moins importante. Pour nous, je veux dire nous, hein, je me fais un peu le porte-parole des amoureux de cette musique. Encore une fois, il était temps, ça fait 50 ans qu'elle existe, elle a eu un impact mondial. Et puis, pour l'instant, en tout cas personnellement, là, je parle mon nom, j'attends de voir ce que ça va donner vraiment. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais pour l'instant, c'est surtout symbolique. J'attends de voir si ça va changer quelque chose, que ce soit sur le terrain là-bas ou globalement pour la reconnaissance ou la prise au sérieux plus sérieuse de cette musique.
Mais justement, vous parlez de la reconnaissance, c'est ça qui est le plus important en premier lieu, c'est de dire, ben voilà, c'est une musique qui, dans la culture générale mondiale, a tout de même son poids et l'histoire l'a prouvé.
Oui, je pense que c'est ça. Je pense que chaque fois qu'on parle de reggae, je crois que c'est toujours important de rappeler la taille de l'île qu'il a vu naître. C'est un peu plus de 10 000 km carrés, donc c'est la taille de la Suisse romande, et c'est moins de 3 millions d'habitants. Donc on parle d'un tout petit territoire qui est presque une anomalie historique, une anomalie culturelle, le poids et l'influence qu'a pu avoir sa musique ou ses musiques à travers le monde. Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui est unique, et c'est d'autant plus étonnant qu'il ait fallu aussi longtemps pour qu'on reconnaisse ça au niveau international. Alors on le sait sans le savoir, mais que le reggae fait partie, et là en arrière-plan un peu dans la tête des gens, mais simplement au travers de quelques clichés assez superficiels. Donc peut-être que cette reconnaissance-là va permettre, c'est ce que je souhaite en tout cas, qu'on la prenne plus au sérieux et qu'on réalise à quel point il y a des artistes extraordinaires qui ont créé cette musique dans cette petite île, et qui ont créé une musique qui a réussi à conquérir le monde pratiquement, c'est à peine exagéré de le dire.
Oui, parce que c'est bien de le rappeler, c'est le reggae jamaïcain qui est reconnu par l'UNESCO. Quelle est la différence avec les autres reggae et pourquoi pas les autres reggae
Moi je dirais, c'est quand même, c'est eux qui l'ont inventé, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Donc c'est une sorte, pour moi, je vois ça un peu comme une AOC. Et puis les autres reggae, à la base, ils sont nés en imitant ce que faisaient les Jamaïcains, puis ils ont développé des couleurs et des identités propres. Je pense particulièrement au reggae anglais ou africain. Mais malgré tout, voilà, tout ce qui est la structure rythmique et la façon de le jouer, à la base, c'est vraiment, les autres ont fait du reggae comme les Jamaïcains l'avaient inventé, puis petit à petit, ils ont commencé à rajouter des éléments personnels et des éléments de leur propre culture musicale. Mais c'est clair que la source, c'est clairement Kingston.
Alors, Marc Ismaïl, vous parlez de rythmique, de musique, mais en même temps, l'UNESCO souligne la contribution de cette musique aux questions de lutte contre les injustices, de résistance, d'amour et d'humanité. On a l'impression, finalement, que c'est plus le message transmis par les titres de reggae que la musique en elle-même qui est reconnue.
Oui, alors, c'est vraiment le mélange des deux. C'est vrai qu'ils sont indissociables. Alors, moi, le premier, je suis très, très... Ce que j'aime le plus dans cette musique, c'est justement les chansons engagées, les chansons à texte. Mais on a une vision peut-être un petit peu biaisée depuis l'extérieur, parce que c'est ce qu'on appelle le roots reggae, qui est vraiment cette partie militante, et qui est celle que faisait largement Marley. Mais il faut se rendre compte quand même que globalement, pour le Jamaïcain moyen, ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il avait envie d'entendre à l'époque où le reggae régnait, c'était des chansons d'amour, etc. Donc, il faut pas non plus voir le reggae comme exclusivement axé sur des thématiques militantes, politiques, mystiques, etc. C'est une part importante, effectivement, et je pense que c'est très bien de le reconnaître, mais c'est de loin pas que ça.
Oui, parce qu'il y a la partie spirituelle. Moi, je me souviens avoir rencontré un jour Pierre-Paul Jacques, très influencé par le reggae, et qui me disait que chez lui, en plus de la musique, il y avait quand même toute la dimension spirituelle qui l'inspirait. Ça aussi, je pense que c'est extrêmement important, c'est de rappeler que le reggae, ce n'est pas simplement de la musique, pas seulement des disques, mais ça va au-delà. C'est vraiment une culture à part entière.
Oui, et puis, alors, parce qu'elle est très intimement liée avec une religion qui est née en Jamaïque, qui s'appelle le rastafarisme, parce que, alors, là aussi, on a une vision biaisée parce que Marley était rasta, on a une le grand public a tendance à considérer les Jamaïcains comme des Rastas, alors que les Rastas, on peut estimer à peu près à 5% de la population. Alors, ils ont eu un impact plus large que ça. Mais c'est vrai que les deux sont vraiment liés parce que le rastafarisme a donné quelque part une puissance supplémentaire à la musique, et puis surtout la musique, le reggae, a permis de faire connaître ce culte qui serait resté connu des seuls spécialistes s'il n'y avait pas eu un mouvement culturel aussi global que le reggae qui a permis de le faire connaître à travers le monde.